Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour écouter Madame Kokula, que j'accueille avec beaucoup de plaisir dans ces lieux où nous avons déjà reçu Arlette Joanna l'année dernière. Donc, c'est une série festive pour Montaigne et son temps. Et je suis d'autant plus heureuse de la recevoir que je me sens un peu comme son héritière à l'Université Bordeaux-Montaigne, puisque voilà, j'ai pris sa suite indirecte au Centre Montaigne, dans lequel nous travaillons toutes les deux. Et Madame Kokula, qu'on ne présente pas, mais que je vais présenter quand même, hein, vient parler ce soir de son ouvrage sur Étienne de la Boétie. Et je voudrais rappeler avant cela que c'est une de nos grandes, très grandes historiennes du XVIe siècle, hein, du début de l'époque moderne. Elle a enseigné longtemps à l'Université de Bordeaux 3, qui s'appelle aujourd'hui Bordeaux-Montaigne. Et elle a ensuite entamé une seconde carrière au Conseil régional, où elle a été vice-présidente. Et ma foi, aucune de ses carrières ne s'est tout à fait arrêtée, puisqu'elle continue, comme vous le voyez, à être très active. Et je suis donc particulièrement contente à titre personnel de pouvoir la présenter ce soir et de l'entendre. Elle va donc présenter son ouvrage, mais nous nous sommes mis d'accord pour travailler, avancer en trois temps et commencer peut-être un tout petit peu en amont de la Boétie, parce que la situation de l'Aquitaine au XVIe siècle est compliquée. Et donc peut-être qu'avant de parler directement de la Boétie, moi je vais essayer de parler dans le micro, avant de parler directement de la Boétie, Madame Kokula, peut-être pourriez-vous nous dire un mot sur d'abord ce qu'est l'Aquitaine au moment où la Boétie naît, puis va entamer sa carrière de parlementaire, la situation de la région, de ce qu'est la Guyenne, par rapport au roi, par rapport à l'Angleterre, par rapport aux guerres de religion. Et puis ensuite, on entrera plus directement dans le vif du sujet, mais je pense que c'est un rappel nécessaire.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci Violaine, merci pour cette présentation. C'est la Boétie, je l'aime bien. J'ai beaucoup travaillé des années durant, mais je n'ai pas trouvé la solution de toutes les énigmes. La première énigme, justement, c'est quelle est la situation de l'Aquitaine au moment où il naît, en même temps pratiquement que Montaigne. La Boétie naît en 1530, sous le règne d'un roi que vous connaissez bien, qui s'appelle François Ier. Il vous revient en mémoire Marignan 1515, et Pavie aussi vous revient en mémoire 1525. Donc, vous voyez, nous sommes en quelque sorte, après le premier quart du XVIe siècle, nous sommes en 1530 pour la Boétie et en 1533 pour Montaigne. Donc, ils sont contemporains. 3 ans d'écart, c'est peu de choses. On peut estimer qu'ils sont vraiment très contemporains, et ils héritent, sur le plan social, on en parlera j'imagine davantage tout à l'heure, ils sont tous les deux d'une famille de bourgeoises, Sarlat pour la Boétie, et je suis sûre que vous avez dû contempler pour certaines et pour certains l'hôtel de sa famille, de ses parents, qui a été construit au moment où il naît, et qui se construit juste en face de la cathédrale de Sarlat, qui n'est pas terminée. Et donc un milieu de bourgeoisie, et c'est à peu près pareil pour Montaigne, simplement les ascendants de Montaigne, eux, étaient plutôt dans le négoce, ils habitent à Bordeaux, rue de la Rousselle, et ils vendent du poisson séché, salé, ils vendent du pastel, qui est encore plus lucratif que le poisson. La différence entre la famille de la Boétie à Sarlat, c'est qu'à Sarlat, il n'y a pas un négoce qui ressemble à celui de Bordeaux. L'enrichissement de la famille de la Boétie, on va aller tout net vers l'essentiel. La plupart du temps, la bourgeoisie des villes, ou des petites villes, attention, elle s'est enrichie durant la guerre de Cent Ans. Elle a prêté de l'argent, et vous savez qu'à force de prêter de l'argent, il arrive que l'on ne puisse pas vous rembourser. Donc, elle a racheté de biens ou elle a hérité de ces biens-là. Ce qui fait qu'on peut dire qu'au XVIe siècle, leur famille, à tous deux, se situe dans un contexte, on va dire, de reprise économique, de prospérité relative économique. On est dans ce que les historiens appelleront un peu plus tard le beau XVIe siècle. Mais attention, quand on parle de beau XVIe siècle, il ne faut absolument pas comparer avec l'état, par exemple, de notre pays en ce moment. Le beau XVIe siècle, c'est quand même un XVIe de disette pour certains, de prix très chers et de situations sociales très compliquées. Donc retenons cela, et puis retenons aussi un aspect qu'on oublie assez souvent, c'est que le royaume de France s'est agrandi à la fin du XVe siècle de la Guyenne, reconquise au milieu du XVe siècle, après la fameuse bataille de Castillon, sur laquelle nous travaillons, mais elle s'est surtout agrandie, ce royaume, de la Bretagne, à la fin du XVe siècle, avec la duchesse Anne de Bretagne. Donc ça veut dire que cette première moitié du XVIe siècle, c'est celle d'une expansion et d'une extension du royaume vers la côte atlantique. Jusqu'alors, on avait beaucoup travaillé vers la Méditerranée. Désormais, on s'ouvre sur l'Atlantique. Et cette prospérité-là, elle est bien évidemment avantageuse pour les deux familles dont nous parlons. Retenir enfin que 1515, Marignan, bah, la belle partie du règne de François Ier est passé et que l'on va entrer dans un cycle de difficultés qui commence dans les années 1525-1530 et qui va culminer ici, j'insiste, à Bordeaux, exactement à peu près au milieu du XVIe siècle, notamment dans l'année 1548. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'en termine, je réponds à la fin de la question. Eh bien, la monarchie combative, la monarchie fait des guerres, et la conséquence de cela, ben, c'est un air pas tout à fait nouveau pour vous, c'est qu'elle a besoin d'argent, l'artillerie coûte très cher, très très cher, désormais c'est grâce à l'artillerie que l'on peut gagner des batailles et surtout ne pas les perdre, et à partir de ce moment-là, la monarchie a besoin d'argent, et cet argent, ben, elle se le procure auprès des sujets du roi. Les ambassadeurs vénitiens, qui sont aussi des espions à la recherche de ce qui se passe dans les pays, disent et s'en étonnent que finalement, ce sont les Français qui paient le mieux et le plus d'impôts en Europe au XVIe siècle. Ça les étonne beaucoup. Voilà, Jolaine, j'en ai terminé.
Oui, et alors justement, la Boétie, on va y revenir, mais à une carrière de ce qu'on appelle à une carrière de parlementaire, sauf que le terme de parlementaire n'a pas tout à fait le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Montaigne aussi est un parlementaire. Et donc, dans cette situation d'une Aquitaine qui, finalement, est française, enfin, de cœur de fraîche date, quels sont les rapports avec la couronne? Et puis, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler, justement, quel est le rôle du Parlement et de cette carrière à laquelle se destinent ces familles bourgeoises en voie d'anoblissement, quel rôle elles jouent dans cette région, parce que je pense que c'est effectivement important pour ensuite comprendre la genèse du discours sur la servitude volontaire.
Tout à fait. C'est très important. Alors, à Bordeaux et puis en Guyenne, il y a quand même, dans les villes, il y a des instances municipales, hein, la jurade. À Bordeaux, les échevins dans le nord, la jurade, les consuls. Donc, ces instances municipales sont un moyen de faire carrière. C'est ainsi que les ascendants de Montaigne, ils ont été des décennies durant jurats, sous-maires, maire de Bordeaux. Le père de Montaigne a été maire de Bordeaux. Lui-même sera maire de Bordeaux. On aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Donc, en fait, au-dessus de l'instance municipale, au-dessus du corps de ville, les parents de la Boétie se sont inscrits dans cette municipalité. Il existe cette instance que l'on appelle le Parlement. Alors, il y a 9 parlements qui ont été créés par la monarchie et qui ont un territoire, ce qu'on appelle un ressort, bien défini, même s'il y a des incertitudes aux marges des parlements. Et le Parlement de Bordeaux, c'est un privilège qui a été accordé d'abord par le roi Charles VII, puis après, ça s'est mal passé puisque les Bordelais ont rappelé les Anglais, et c'est Louis XI, qui ne s'entendait pas bien avec lui, qui va accepter la création de ce Parlement de Bordeaux en 1462, vous voyez, peu de temps après la bataille de Castillon, 1453. Mais, Violaine, parce que les Bordelais sont des gens qu'il faut surveiller, qui sont suspects d'aimer finalement assez les Anglais, de commercer avec eux, tout ça, on se méfie. Donc, la chance des Périgourdins, la chance de Montaigne, depuis que son père ou son arrière-grand-père s'est installé en Périgord, la chance de la Boétie, c'est d'avoir été des Périgourdins qui ont été plutôt rattachés à la couronne de France, qui sont plus sérieux, si j'ose dire, c'est-à-dire plus fidèles. Et la monarchie, elle a besoin de cette fidélité. Au début de la création du Parlement, ils sont 8 ou une dizaine, on va dire, comme magistrats dans le Parlement. À l'époque de la Boétie et de Montaigne, ils sont une cinquantaine. Et vous sentez bien que dans la croissance de ces chiffres, il y a des ventes de charges. On achète la charge, et donc cette charge, on la transmet, etc., etc. Donc ça veut dire une certaine aisance. La responsabilité, elle est considérable de ces magistrats. Il ne faut jamais l'oublier. D'abord, ce sont des gens de justice, ce sont des juristes, qui pour certains sont exceptionnels. Et en même temps, Violaine en a parlé, ils ont, le Parlement est divisé en chambres. Il y a la chambre des enquêtes où opèrent les jeunes, puis il y a la grande chambre où on monte en quelque sorte en hiérarchie. Mais ce que la Boétie et Montaigne vont avoir à juger, et là, c'est ce qui est en quelque sorte le tournant du siècle et le grand problème de toutes les périodes qui vont suivre, ils vont se trouver face aux guerres de religion. Et les guerres de religion qui commencent d'abord dans le Saint-Empire romain germanique, Luther, ce sont les années 1517-1520, mais qui continuent ensuite vers l'Europe. Calvin, c'est 1535-1540. Et dans notre région, pour les avoir cherchés beaucoup, les premiers réformés protestants qui adhèrent au calvinisme et pas au luthérianisme, ce sont les années, on va dire, 1540-1545. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est essentiel pour comprendre Montaigne, un peu moins pour la Boétie qui meurt trop tôt, en quelque sorte, c'est la tâche, la charge du Parlement, elle va être à la fois de juger, condamner ceux qui sont suspects d'hérésie, et parfois de les mener au bûcher, et ça va être aussi de faire appliquer des édits de pacification religieuse, puisqu'on n'a pas trouvé la solution théologique qui permettrait par un concile accepté par tous de raccommoder en quelque sorte et de faire que ces chrétiens se réunissent, eh bien, la monarchie va donc, sur le plan civil, essayer de trouver finalement des clauses, des édits de pacification. Et on peut déjà le dire, la Boétie est sans doute l'un des premiers à avoir ici, tout au moins pas à Bordeaux, mais à Agen, mis en application un édit de pacification. Nous sommes dans les années 1560, l'édit durera, à mon avis, l'application quelques semaines, pas plus, mais c'est très très important parce que ces premiers édits de pacification sont ceux qui vont conduire jusqu'à l'édit de Nantes. L'édit de Nantes n'est pas le premier, il est en quelque sorte le dernier d'une longue série. Enfin, un point important, ces parlements ont le droit d'enregistrer, ont l'enregistrement. C'est-à-dire que ce sont eux, dans le cadre de leur ressort, qui enregistrent les lois et les ordonnances. Donc à partir de ce moment-là, ils ont, on pourrait dire, un droit de contrôle sur la monarchie. Ou tout au moins, ils veulent opérer un contrôle sur la monarchie. Et pour revenir à la Boétie, à la servitude volontaire, ils ont vraiment la sensation d'être ce que l'on pourrait appeler avec beaucoup de précaution un quatrième ordre. C'est-à-dire, pas la noblesse, pas le clergé, pas le tiers-état, mais un ordre de magistrats, d'hommes de justice, dont moi j'estime que le savoir, les connaissances, et pas simplement en matière de droit, sont éblouissantes. Voilà.
Oui, je crois qu'il est effectivement très important de se souvenir que ce sont des juristes et que ce sont des gens de justice, et que très souvent ces parlementaires sont aussi effectivement les dépositaires d'une forme de culture humaniste et se sentent les défenseurs de la culture et de la langue française. Et quelque chose que vous dites dans votre livre est très important aussi pour bien comprendre le contexte, c'est qu'aujourd'hui on parle de Montaigne et de la Boétie, mais comme vous le rappelez, à cette époque-là, il faut inverser les noms.
Tout à fait.
Et la Boétie vient avant Montaigne, justement, bien, à cause de cette confiance des Périgourdins. Alors peut-être que maintenant, vous pouvez nous rappeler justement brièvement quelle a été son éducation et comment il est arrivé à cette charge de parlementaire, et puis ça nous amènera au discours.
Au discours. On sait peu de choses. D'abord, c'est une biographie courte. Il naît en 1530, il meurt en 1563, hein, donc 33 ans de vie. Mais attention, à cette époque-là, l'espérance de vie, elle se situe dans, à peu près dans cette longévité-là. Donc, une vie brève dont on ne sait assez peu de choses, sinon le rôle que jouait son père aux États du Périgord, à l'Assemblée des États du Périgord, le fait que la noblesse dans la famille est venue par sa mère, qui est une Calvimont, toujours périgourdine, et à partir de ce moment-là, des parents qui meurent lorsqu'il est jeune, 7, 8, 9 ans, 10 ans, et la chance, à mon avis, mais j'en ai pas la certitude absolue. La chance de la Boétie, c'est que la ville de Sarlat, le diocèse de Sarlat, va, après l'application du Concordat de Bologne, qui donne au roi de France, finalement, l'investiture des évêques en accord avec la papauté, eh bien, on va élire, on va enlever au chapitre de Sarlat l'élection, le choix des évêques, comme par hasard, il les choisissait toujours parmi les périgourdins, en fait. C'était des familles patentées pour être, et notamment les Fénelon, les Salignac-Fénelon, dont vous connaissez un héritier. Et donc, en fait, cette fois, c'est le roi de France qui choisit, et ça ne sera pas un étonnement pour vous, c'est le moment où François Ier vient de marier son fils cadet à Catherine de Médicis. Son fils cadet, mais le dauphin n'est pas encore mort, son fils cadet, et finalement, en accord avec le pape, ils vont choisir un Florentin qui s'appelait Nicolas Gaddi, G-A-D-D-I. Vous n'imaginez pas, c'est compliqué à décrire, mais le contraste énorme qu'il devait y avoir entre Florence et Sarlat. Énorme, d'autant plus que Nicolas Gaddi a des parents dans la curie. Enfin, c'est vraiment un grand collectionneur de manuscrits. C'est vraiment que, il a mis presque une décennie à venir dans sa ville et il y est resté peut-être quelques mois, mais pas plus. Donc, ce qui est important à noter, c'est que quand l'évêque ne réside pas, c'est le cas de Nicolas Gaddi, bien évidemment, eh bien, il envoie à sa place des gens qu'il représente. Et quand je dis des gens qui le représentent, des juristes, des musiciens, des hommes de lettres, des clercs. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé, mais je ne suis pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'évêques italiens dans la France du XVIe siècle, cette cour autour de Nicolas Gaddi qui n'est pas là, mais cette cour de lettrés est sans doute ce qui va donner l'élan aux jeunes La Boétie. Un élan très fort. Parce que songez finalement qu'il va écrire son discours, ça on en est sûr, et je vous indiquerai pourquoi tout à l'heure, entre 16 et 20 ans. Et que ce discours, en fait, suppose une culture grecque et latine considérable. Donc ça veut dire que finalement, parvenu à l'adolescence, un peu comme Montaigne d'ailleurs, parvenu à l'adolescence, il y a cette possession de connaissances qui fera de la Boétie un grand spécialiste du grec, en sachant que le latin ne lui est absolument pas étranger, qu'il connaît bien l'italien, et en sachant aussi que la langue maternelle de Montaigne, c'est le latin. Donc, en fait, on est en présence de très, très grands lettrés dont nous avons du mal à suivre le parcours. Alors, on ne sait pas. Il n'est pas venu à Bordeaux. Il aurait pu venir au collège de Guyenne. Et à ce moment-là, il aurait rencontré Montaigne, qui rentre à 6 ans au collège de Guyenne, qui s'y ennuie. Il a déjà appris le latin. Hein, et il pose des problèmes à ses régents qui lui donnent du mauvais latin à traduire en bon latin. Mais on n'y voit pas la Boétie. Et on en connaît la raison. Parce que les régents du collège de Guyenne, qui est créé la même année que la naissance de Montaigne, en 1533, sentent l'hérésie. Ils sentent finalement ce qu'on appelle les malsentants de la foi. Ils sont peut-être aussi infectés et infestés, c'est le terme qu'on emploie. Donc à partir de ce moment-là, comme la Boétie, après la mort de ses parents, est élevée par un oncle, curé, mais un curé pauvre, hein, qui s'appelle Étienne de la Boétie aussi, qui est son parrain, il ne l'a pas envoyé là. Alors, où l'a-t-il envoyé ? À Paris, à peu près sûrement, où il va avoir des contacts très tôt avec les futurs poètes de la Pléiade. Et là, je crois effectivement qu'il s'initie à la poésie. C'est un poète qui fait des sonnets à la manière de Ronsard et de Dubellay. Et il va aussi, un peu plus tard, là on en est sûr, aller dans une des plus grandes universités de loi à l'époque dans le royaume, qui est l'université d'Orléans. Donc on a son brevet, sa licence. Sa licence, finalement, il a 22 ans et il va rentrer tout de suite au Parlement de Bordeaux. Son entrée au Parlement de Bordeaux, elle est facilitée par les relations, c'est clair. Il a une dispense, il obtient une dispense, et très tôt, très vite, Violaine vous l'a dit tout à l'heure, il a cette réputation qui est née d'un ouvrage mince, une cinquantaine de pages, quelles que soient les éditions du discours, il comprend entre 50 et 70 pages. Et ce discours qui s'appelle pas le discours, mais qui s'appelle la servitude volontaire, c'est lui qui a donné le nom de servitude volontaire, et quelque chose qu'il a fait connaître très tôt au Parlement. Et l'idée de la rencontre pour Montaigne de la Boétie, c'est connaître celui qui a écrit le discours. Donc nous sommes à ce moment-là, dans les années un peu plus tardives, dans les années 1556-1557, parce que si la Boétie entre par la grande porte dans le Parlement de Bordeaux, ça n'est pas du tout le cas de Montaigne, qui a dû piétiner, faire des pieds et des mains, puisqu'il vient, lui, d'une cour de justice qui avait été créée quelques années auparavant, qui est siégée à Périgueux, la cour des aides, mais qui a été supprimée par sa concurrente de Montpellier. Donc on a rapatrié ces 14 magistrats au Parlement de Bordeaux, et les parlementaires de Bordeaux, qui étaient entre 50 et 60, ont dit on n'en veut pas. Donc en fait, parce qu'ils étaient à la fois mieux rétribués qu'eux, et sans doute un peu hiérarchiquement inférieurs, donc ça a été une bagarre. Et dans cette bagarre d'intégration des membres de la cour des aides, Montaigne a joué un rôle assez important, mais je le dis et je le répète, il entre sur la pointe des pieds au Parlement de Bordeaux, il n'a pas la réputation de la Boétie, et c'est la Boétie qui attire sur lui la gloire.
Et donc justement, la gloire de la Boétie, alors Montaigne dit « écoutons parler ce garçon de 18 ans », puis après il le rajeunit « écoutons parler ce garçon de 16 ans ».
On va en parler
Ce texte du discours, qui donc n'est pas imprimé d'abord, je pense qu'on peut le rappeler, circule de manière manuscrite, que contient-il finalement, enfin, pourquoi est-ce qu'il est devenu si rapidement si célèbre et pourquoi est-ce qu'il a donné envie à Montaigne de rencontrer la Boétie? Puis qu'est-ce qu'on savait de son auteur aussi? Parce qu'il y a aussi cette question-là, il circule son nom.
Il circule sans nom, et il circule sans nom jusqu'à des époques malgré tout assez récentes, jusqu'au XVIIIe siècle à bien des égards. Il a été pris, il a été récupéré, il a été recopié. Alors, que contient le discours? D'abord, il y a une chose qui m'a frappée, je ne quitte pas le sujet, c'est que dans les jurys d'agrégation, on avait souvent demandé avec insistance que soit mis au programme le discours de la servitude volontaire. Ça pouvait ravir les agrégatifs qui avaient un discours d'une cinquantaine de pages. Ça n'était pas effectivement une partie des essais. C'est beaucoup plus court. Mais, je dois dire, les membres des jurys ont quand même souvent en demandé, et il y avait comme des résistances ou des réticences du côté du ministère. Et en fait, il y a 4 ans, Violaine, 4 ans, pour la première fois, on a vu apparaître au programme de l'agrégation de lettres modernes et lettres classiques le discours de la servitude volontaire. Et là, ça a permis finalement à des collègues littéraires de retravailler sur cette thématique, d'analyser ce texte que je vous recommande de lire parce qu'il est sans cesse édité, sans cesse réédité. Il est traduit, on va le dire, en français contemporain, en français moderne. Il est explicité. Et je n'ai essayé dans mon ouvrage, à la fin, de classer le nombre d'éditions. Ça dépasse une cinquantaine, mais je me trompe, il y en a beaucoup plus encore. Et il y en a dans les langues étrangères. Et donc, en fait, ce qui vous prouve, et c'est un des points précis de ce texte, c'est un texte d'une permanente actualité. Alors, que dit-il? Eh bien, se fondant sur des exemples antiques, grecs, latins, que la Boétie connaît parfaitement. Il pose le principe un peu contraire à ce que l'on voit d'ordinaire chez les historiens ou les mémorialistes, c'est que finalement, le pouvoir d'un tyran, pour le terme de tyran, le pouvoir d'un tyran n'est pas la responsabilité du tyran qui l'exerce, mais la responsabilité de ceux qui, lui obéissant, se sont mis d'eux-mêmes en servitude volontaire. Se mettant d'eux-mêmes en servitude volontaire, j'essaie d'interpréter la Boétie, ils ont non seulement perdu leur liberté, mais, ce qui est encore plus important, ils ont perdu le souvenir de cette liberté, la souvenance de cette liberté. Donc, ce faisant, en quelque sorte, alors que les animaux, et il y a de beaux exemples dans le discours, se sentent en captivité, qu'ils se débattent, qu'ils essaient de s'en aller, qu'ils ressentent la prison, eh bien, les hommes, non seulement ne ressentent pas cela apparemment, mais ils s'empressent quand on leur dédie des jeux, des fêtes, des spectacles. Et vous avez là, bien évidemment, tout l'environnement de l'Antiquité, mais point capital à retenir, la description qu'il nous fait au fur et à mesure que le texte s'avance, c'est bien évidemment la description de la monarchie. Au point d'ailleurs, et c'est un moment du discours qui nous pose problème, de dénigrer tous les insignes de la monarchie et d'envoyer en quelque sorte les fleurs de lys, les crapauds, tous les emblèmes, en disant qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Donc voilà, premier thème, cette liberté perdue, cette liberté qui ne peut être, si j'ose dire, récupérée, retrouvée, que s'il y a parmi les humains ce qu'il appelle des gens bien nés. Et à partir de ce moment-là, les gens bien nés, qui sont-ils? Ceux qui ont gardé le souvenir de cette liberté originelle et qui sont censés pouvoir la réapprendre à leurs contemporains. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la Boétie, témoin de son temps, dit bien la révolte ne mène à rien, parce que la révolte, elle se termine toujours de façon sanglante. Ce sont les tyrans qui gagnent, ils ont la force, etc. Donc, tout repose sur ce qu'il n'appelle pas, lui, la désobéissance, mais qu'on appellera la désobéissance, c'est-à-dire, finalement, le refus de servir ceux qui sont devenus les détenteurs d'un pouvoir parce que les autres ont abdiqué ce pouvoir. Et pire que les tyrans, pour la Boétie, il y a ceux qu'il appelle les tyrannos, c'est-à-dire toute une chaîne de petits tyrans qui servent le grand tyran et qui, en quelque sorte, enferment cette société où on a retrouvé, dans son temps, finalement, la société de cour en train de se constituer, parce qu'il ne faut pas oublier que la cour de France que l'on vous décrit à l'époque de Louis XIV, elle trouve, son importance à partir du XVIe siècle dans la cour des Valois. Donc, c'est un texte dangereux, dont le danger, entre guillemets, pour ceux qui incarnent l'ordre, pour le roi en l'occurrence, pour le monarque, c'est un texte qui fait, comme nous dirions à notre époque, problème. Alors, pourquoi a-t-il eu du succès? Parce que je vous ai parlé du quatrième ordre. Pour les magistrats, il est clair que eux sont d'emblée ces gens bien nés dont je vous ai parlé. Et c'est une constante, là je déborde la période de la Boétie, que l'on va retrouver dans toutes les crises des parlements jusqu'à la Révolution, car il ne faut jamais oublier que les débuts de la Révolution de 1789 sont des débuts orchestrés par la révolte des parlements. Et que Turgot a pu reprocher à Louis XVI, justement, d'avoir rappelé les parlements et de n'avoir pas suivi la réforme capitale de Louis XV à la fin de son règne, qui avait en quelque sorte chassé, expulsé les anciens parlementaires. Donc on est là sur un point, si vous voulez, qui est à la fois un point politique, un point philosophique et en même temps une réflexion sur la condition des hommes. Voilà pourquoi ce texte qui est magique à bien des égards, magnifique à lire à haute voix. Il faut le lire à haute voix. Vraiment un texte. Ce texte-là a plu énormément aux collègues, on va dire, de la poésie. Et c'est pour cela que Montaigne est allé vers lui. Il est allé vers lui en 1556-1557, à l'occasion, il nous le dit dans les essais, dans le fameux chapitre de l'amitié, d'une compagnie de ville. En gros, finalement, un pot chez le maire de Bordeaux. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas plus différent que ça. Alors, tout le problème, c'est de savoir à quel moment il l'a écrit, pourquoi il l'a écrit. Alors, le côté extraordinaire, c'est que ce texte que je vous recommande de lire, c'est un texte qu'il écrit, ça on en est sûr, la tranche d'âge, c'est entre 16 et 20 ans. Quand il arrive au Parlement, la Boétie a écrit ce texte qui est manuscrit. Et on vous l'a dit, il circule de main en main. Alors, comment sait-on, je dirais, cette tranche d'âge? Tout simplement parce qu'il va l'offrir en hommage, lui. Il va le dédier encore à un périgourdin, Guillaume de Lure-Longa, une grande famille de Lure, qui vous a donné d'ailleurs les Lure-Saluces, par exemple. Il va le léguer à Guillaume de Lure, qui habite à Longa, à côté de Mussidon, et qui va céder sa charge au Parlement de Bordeaux à la Boétie, et qui va gagner le Parlement de Paris. Et donc, par deux fois, on trouve dans le discours l'emploi du mot « au Longa ». Donc, c'est la preuve qu'il l'a dédié à Longa. Ils ont l'air de bien se connaître. Et moi, je suis allée faire des conférences au château de Longa, qui n'existe plus, mais on voit simplement, je dirais, les murailles sous le gazon, mais il y a une chapelle où serait venu Calvin. Et donc, cette famille de Longa est puissante. Et cette famille de Longa, elle est mixte, elle est protestante et catholique, et elle a des relations très particulières avec Catherine de Médicis. Donc, le discours va circuler dans Paris. Et les membres du Parlement de Paris, notamment Henri de Même, vont, en quelque sorte, se charger de le critiquer, tenter de le critiquer. Alors, pourquoi coïncide-t-il avec une situation bordelaise? Donc, voyez, s'il est né en 1530, s'il a 18 ans, il se peut qu'il ait écrit ce discours, cette servitude volontaire, au moment où, on ne l'apprend pas assez souvent dans les manuels d'histoire, la ville de Bordeaux a connu une révolte très grave en août 1548, lorsqu'on a voulu imposer la gabelle, l'impôt sur le sel, lorsqu'on a envoyé des officiers, des gabelous, pour tenter de l'imposer avec l'instauration de greniers à sel. Ça s'est terminé par une émeute terrible, et cette émeute terrible s'est traduite par le massacre. On l'a massacré. Montaigne est présent, il a 15 ans, il nous le raconte dans un chapitre des essais. On a massacré le représentant du roi, Tristan de Monin. On a même découpé ses morceaux, etc. Donc, en fait, ce massacre-là, août 1548, ça se passe rue Désert, à l'emplacement, si vous voulez, du musée d'Aquitaine à l'heure actuelle. Ce massacre-là attire la foudre du roi et la punition sur Bordeaux sera méchante. De l'argent, des mercenaires qui logent chez l'habitant, on empêche les cloches des églises de sonner puisqu'elles ont sonner le tocsin de la révolte, et pire encore, pour le destin politique de Bordeaux, on décide désormais que sa jurade fonctionnera avec les mêmes contraintes que la jurade de Paris. Désormais, Bordeaux entre, j'ose dire, en servitude. Donc, est-ce cet exemple-là? Ou bien est-ce 3 ans plus tôt l'exemple de la révolte de la gabelle qui s'est passée, que j'ai étudié par ailleurs, à Périgueux, en Périgord, qui s'est passé aussi en Saint-Onge, parce que désormais on veut faire payer des pays qui produisent du sel, et ça c'est inacceptable pour les habitants. En tout cas, Bordeaux se révolte en 1548, mais pas en 1545, pour une raison très simple, c'est qu'en 1545, il y a la peste à Bordeaux, et en général, les villes sous épidémie de peste ne se révoltent pas. Donc on est là, devant cette optique, en quelque sorte, qui consisterait à dire la Boétie a écrit le discours pour montrer comment, à l'issue d'une révolte un peuple s'assujettit, se soumet, et c'est en quelque sorte la version d'un mémorial historien de tout, qui dit en fait les princes ont de longues mains, et à partir de ce moment-là, comme une sorte de charme, un procédé magique de sorcellerie, le peuple obéit, se rend, s'assujettit, et finalement, cette soumission entre dans la démonstration de la Boétie. Voilà. Alors, 1548, Violaine vous l'a dit, dans les premières éditions des essais, Montaigne, écoutons ce garçon de 18 ans. Donc, 1530, 1548, c'est bon. Mais dans la dernière édition, dans l'édition qu'il prépare après 1588, qui deviendra l'édition posthume, il a barré 18, il a mis deux traits parallèles et il a mis 16 ans. Voilà. Donc il n'y a plus coïncidence. Il n'y a plus coïncidence avec l'événement. Et il y a la question posée, pourquoi ce discours ? Que Montaigne appelle discours, pas la Boétie, c'est Montaigne qui l'appelle discours. Pourquoi ? Alors que le chapitre de l'amitié est bâti sur l'insertion de ce discours, il faut lire le chapitre de l'amitié, pas simplement parce que le chapitre de l'amitié, c'est celui qui doit présenter le discours au lecteur. Eh bien, il n'y est pas. Montaigne dit, je vais le mettre. Puis, il recule par deux fois, en 1580, en 1588, mais nous le disions tout à l'heure avec Violette, curieusement, il dit, je le mets. Puis, non, je ne le mets pas. Mais il ne change rien. Il laisse le discours, il laisse, pardon, le chapitre intact. Donc, énigme là encore, comme s'il voulait, lui, empêcher de le publier, c'est ce que je vais développer maintenant, signaler que ce discours existe. Alors, empêcher de le publier, pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Il y a un moment dans l'histoire de France que vous connaissez tous, qui s'appelle la Saint-Barthélemy. Nous sommes en août 1572, la Boétie est morte depuis 9 ans, donc la Boétie n'entre plus, si j'ose dire, dans le jeu, mais simplement les protestants, à en partir de 1573, 1574, après le siège de La Rochelle, ils vont tomber sur ce texte de la Boétie et ils vont le traduire en latin et le publier de façon anonyme. Et donc, à partir de ce moment-là, ce texte devient un pamphlet récupéré par les protestants qui dénoncent la tyrannie de la monarchie. Et voilà, en quelque sorte, quel sera désormais le destin du discours. Un texte interdit, un texte dangereux. Et c'est pour cela que, en 1579, quand on brûle, comme un livre interdit, l'ouvrage où il est présenté avec d'autres pamphlets, moi j'ai retrouvé les petits sacs, on mettait les livres qu'on voulait brûler, on ne les mettait pas, ce n'était pas un auto-da-fé, comme vous voyez, on les enfermait dans des sacs, pour que le titre ne soit pas lisible, pour que les curieux ne laissent pas, que les gens qui savent lire ne se disent bon, on l'a fait. Et donc il a été brûlé. Donc l'éditeur, le libraire imprimeur de Montaigne, en 1580, Simon Milange, qui était aussi l'éditeur du Parlement, ben, il ne pouvait pas. Ou bien lui, à son tour, il aurait quand même eu quelques problèmes. Donc en 1580, il ne le publie pas. Alors, il y a deux versions chez les montaignistes. Il y a la version d'Alain Legros, qui est un ami, qui pense que lui, Montaigne, a couru chez Simon Milange au dernier moment, qu'il a enlevé, en quelque sorte, la partie du discours, ce qui fait qu'il parle, Alain, d'un texte cicatriciel. En gros, le chapitre de l'amitié, ben, il y était, mais il a disparu. Il y a les cicatrices. Et puis, il y a ceux, comme Michel Magnin, qui dit, mais non, Montaigne a bluffé, il n'y a jamais été. Il n'a pas voulu le mettre. Il ne voulait pas courir le risque de lui mettre parce qu'il pensait, lui, Montaigne, à sa carrière. Donc, je ne sais pas répondre à cela. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, ce texte s'est promené et on en a retrouvé un récemment. Oui. Voilà. Qui est un texte de 1605. Dès que ça va mal du côté de la monarchie, hop, ce texte réapparaît.
Oui, c'est un texte qui a une histoire assez extraordinaire parce que Montaigne a construit les essais un peu comme une sorte de tombeau autour de ce texte qui n'y figure pas. Et on continue en même temps de découvrir des copies, oui. Parfois c'est ce qui a été expliqué à Sarla lors des rencontres Laboétie, des copies qui ressurgissent, oui, ou des copies au milieu d'autres choses. On pourrait peut-être finir par évoquer le fait que Laboétie a écrit aussi d'autres choses, parce que du coup, ce texte extraordinaire occulte finalement un peu et le personnage de Laboétie, surtout que Montaigne lui a donné cette destinée, enfin cette sorte de destinée dans les essais. Mais on pourrait finir par évoquer les autres talents littéraires de poète et de traducteur de Laboétie, et puis ensuite je suis sûre qu'il y aura des questions.
Alors Laboétie, on a quand il meurt en 1563, donc Montaigne rassemble ses reliques, c'est lui qui emploie le terme de reliques, qui sont des textes épars. Et dans ces textes épars, il y a des poèmes latins, les poemata, il y a des sonnets en français, influencés par la Pléiade, mais de très très beaux sonnets, hein, malgré tout. Hein. Et puis, il y a des traductions d'auteurs grecs, parce que c'est un helléniste de premier plan, Laboétie. Et donc, Montaigne rassemble cela, et il va aller à Paris, en 1570, chez un libraire-imprimeur qui s'appelle Frédéric Morel, qui est célèbre, et il va faire publier cela. Il va en profiter d'ailleurs, lui, pour glisser dans ce texte une traduction du latin, et puis pour glisser aussi la lettre où Montaigne décrit à son père, Pierre Ekem, l'agonie de Laboétie. Le père de Montaigne est mort en 1568, donc 1570, vous voyez, l'ouvrage paraît, Laboétie est mort, Pierre Ekem est mort, et c'est le moment où Montaigne va choisir ce que l'on appelle ordinairement sa retraite, c'est-à-dire il va quitter le Parlement, mais en fait de retraite, c'est un changement de vie. Le magistrat qu'il était va devenir... J'ose presque dire, un homme engagé qui va jouer un rôle politique assez important. Voilà. Donc, ces poèmes de Laboétie, poémata, de longs poèmes adressés à ses collègues et des poèmes adressés à Montaigne, deux grands poèmes adressés à Montaigne qui viennent d'être publiés, édités dans l'ouvrage qui suit celui-ci. C'est le numéro suivant, les poésies de Laboétie. Et quand on lit ces poemata en français, on s'aperçoit quand même qu'il manie un humour certain, hein, aimait beaucoup la plaisanterie, et il reprochait largement à Montaigne de ne pas bien se conduire, de ne pas se conduire en honnête homme. Il ne devait pas courtiser les femmes mariées. Et à partir de ce moment-là, c'est un autre portrait de Montaigne que l'on voit. Et face à lui, Laboétie incarne cette forme de sagesse, de rigueur. Alors lui, il a épousé Marguerite d'Arsac, qui appartient à une grande famille bordelaise de lettrés, de parlement, que l'on appelle la famille de Carles, qui joue un rôle très important au début des guerres de religion. Marguerite d'Arsac a été mariée, a fait un premier mariage avec le chevalier d'Arsac en Médoc, qui a un domaine en Médoc, et à la mort du chevalier d'Arsac, elle épousera assez tôt Étienne de Laboétie. Et j'ai récemment découvert, l'acte de son premier mariage. Elle devait avoir entre 10 et 15 ans de plus que Laboétie. C'est une femme instruite, à laquelle il envoie des poésies en latin. Donc, en fait, on le disait aussi toutes les deux, à l'heure, il y a dans leur entourage des dames qui jouent un rôle important. Alors, Marguerite, j'ai suivi un peu son destin, et Laboétie en parle beaucoup dans la lettre à son père, ou lorsqu'il décrit l'agonie de Laboétie. Alors, c'est par là peut-être qu'on va terminer. Laboétie meurt en août 1563. Il ne meurt pas chez lui à Bordeaux, il ne meurt pas à Sarlat, il meurt à Germignan, c'est un nom qui vous est familier, dans la paroisse du Taillon, qui n'est pas encore la commune, hein, dans la paroisse du Taillon en Médoc, dans un lieu qui reste à peu près cerné, mais le domaine a disparu. On a souvent cherché sa tombe, je crois qu'elle n'a jamais existé. Où a-t-il été enseveli? On ne sait pas quelle a été l'origine de sa maladie. Alors, il y a eu tous les bruits qui ont couru, l'empoisonnement, sûrement pas, mais la description médicale que Montaigne en fait laisse à penser qu'il a pris mal, qu'il a pris froid, après une partie non pas de tennis, mais de jeu de pommes. De jeu de pommes, puisque la Boétie était très expert au jeu de pommes et que j'ai pu localiser dans Bordeaux les lieux où ces magistrats jouaient au jeu de pommes. Donc, vous voyez, ce n'était pas forcément une vie austère, mais ça pouvait être une vie tragique. Pensez quand même aux condamnations à mort. Alors, sachez que si on fait le classement des parlements les plus sévères, Bordeaux ne fut pas un parlement très sévère, on en juge par le nombre de condamnations. Toulouse le fut un petit peu plus, Paris aussi. Alors, comment expliquer cela? Et là, je vais en terminer. Mais par le fait qu'il y avait ici, en Guyenne, une très, très grande famille qui donnera un roi à la France, c'est-à-dire le futur Henri IV. Cette famille, c'est celle des Bourbons-Albret, celle d'Antoine de Bourbon qui meurt en 1562 et de son épouse Jeanne d'Albret qui se convertit au protestantisme en 1560. Et à partir de ce moment-là, vous avez sans doute en quelque sorte la clé de cette forme de tolérance, parce que quand le Parlement de Bordeaux en 1568-1569 fait deux fournées de condamnations à mort, aucun n'est condamné à mort, ils sont tous partis. On les juge par contumace et on se contente, si j'ose dire, de les décapiter en effigie. Voilà.
Voilà, merci beaucoup pour avoir rendu vivante cette figure importante et qu'on oublie parfois un peu ici à cause de Montaigne qui pèse si lourd sur la mémoire de la ville et qui fait oublier qu'il y a eu d'autres grandes figures d'érudits. Et c'est assez amusant de voir la Boétie sérieux faire la leçon à un Montaigne un peu dévergondé.